Et nous allons passer une semaine de découverte d'un univers qui nous est très familier sans forcément bien savoir tout ce qu'il cache. Cet univers, c'est celui de buraliste, une profession que nous allons découvrir toute la semaine avec Eric Larreau. Nous sommes installés au centre commercial Corniac à Limoges. D'abord peut-être le début de l'aventure ici même à Corniac, ça remonte déjà à quelques années.
Oui, en 2004, avril 2004.
2004, mais votre expérience, vous, dans le rôle du buraliste, il remonte un petit peu plus loin encore.
92, oui, 92 et après 94, l'achat du magasin, oui, à Lille.
C'est une succession familiale.
Oui, on a racheté à sa mère, oui. Disons que j'ai été élevé dans le commerce, ma mère a toujours été commerçante, et puis, de fil en aiguille, j'y suis arrivé moi aussi.
Alors, on verra si ce commerce-là, buraliste, c'est quelque chose de particulier, une relation peut-être particulière avec la clientèle. Alors, différents services, évidemment, au sein de cette profession de buraliste, là, vous êtes peut-être un de ceux qui est les plus représentatifs de tout ce qu'on peut faire. Vous proposez effectivement beaucoup de choses, même si on va les détailler toute la semaine. Un petit mot de tout ce qui est possible de trouver ici.
Ah oui, on part de la presse. Hein. De la presse, on va sur le cadeau, la carterie, la papeterie, la bimbloterie, la confiserie, sans oublier le tabac, la Française des Jeux et le PMU.
On verra s'il faut tout ça aujourd'hui, évidemment, pour l'évolution du métier. On l'a dit, vous êtes dans la galerie commerciale de Corniac, à Limoges. C'est un avantage, un désavantage? Qu'est-ce que ça change?
Oh, c'est certainement un atout, oui. Pour une bonne partie de la clientèle qui vient faire ses courses à U, c'est un avantage. Oui. Puis, il faut dire aussi qu'on amène beaucoup de monde dans la galerie, rien que par le métier de buraliste, on attire du monde. Oui.
Ça marche dans les deux sens, finalement.
Dans les deux sens.
Alors, le métier de buraliste, il y a une proximité avec la clientèle. Vous sentez que c'est une relation particulière?
Ah oui, tout à fait. Au fil des années, on a pu... Que des clients, on a des amis, oui. On arrive quand même à fidéliser notre clientèle, à discuter, à plaisanter, à avoir un esprit un peu plus convivial que le commerce par lui-même.
Voilà, et ça fait partie de ces commerces importants quand on dit, voilà, alors là on est dans une grande ville évidemment, mais dans les petites communes, les petits villages, un bureau de tabac, c'est vraiment un peu le lieu de vie, le point de rencontre.
Ah, je pense certainement que c'est primordial dans un village qu'il y ait un bureau de tabac, oui. Un bureau de tabac, bar, presse, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Le commerce de proximité, on peut pas s'en passer. Malgré que tout ce que les gens disent, notamment nos chers élus, un commerce de proximité, c'est ce qui fait vivre un village, oui.
Et on verra comment ça évolue, effectivement. Pour vous aussi, quelle relation quand vous venez travailler? C'est un état d'esprit différent aussi en tant que commerçant?
Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, on reçoit beaucoup de monde et donc des gens de tous les bords, une clientèle diversifiée, et ce qui nous permet de nous adapter et puis d'avoir un changement tous les jours. Toutes les heures, on a un changement d'attitude des gens, de clientèle, de vente. Voilà, c'est vraiment diversifié, c'est un métier diversifié.
Et puis le bureau de tabac, c'est un lieu de passage très fréquenté. On a des chiffres qui sont assez impressionnants d'ailleurs.
Oui, c'est ce qu'on disait sur le niveau national, 25 000 habitants de tabac, 10 millions de clients jour. C'est énorme, 10 millions de clients jour, c'est une corporation que, à part la grande distribution, personne ne connaît.
Hein. Il suffit de faire le ratio pour faire le calcul de passage quotidien, c'est quand même impressionnant, et c'est surtout des passages éclairs, parce qu'en règle générale, on vient ici, j'allais dire, on perd pas de temps, on veut même pas en perdre à la limite.
Ah non, mais alors, moi c'est un petit peu plus, c'est un peu plus délicat, parce que la plupart du temps, les gens ont déjà fait la queue dans la grande distribution. Et quand ils arrivent là, ils veulent pas faire la queue, ils veulent être servis tout de suite.
Il faut que ça fuse.
Voilà, il faut mettre entre 20 et 30 secondes pour servir un client.
On ne se met pas ce challenge-là, mais on sait que c'est comme ça que le client a envie de voir les choses.
En disant que faut qu'on aille vite.
Et puis tout type de clientèle, puisqu'on l'a dit, vous vendez un peu tout, donc avec des tarifs qui vont de quelques centimes pour certains articles, donc ça permet de voir passer vraiment tout type de population.
Ah, tout à fait. C'est l'avantage de notre métier, c'est là qu'on appelle un commerce de proximité, c'est qu'on peut satisfaire tout le monde.
Alors le paradoxe, c'est que c'est un commerce très important et on a l'impression que les difficultés sont aussi importantes depuis quelques années. On le sait, hein, les buralistes souvent se mobilisent pour dénoncer un petit peu leur situation. Sentez qu'il y a, on est un peu en zone rouge, on tire souvent la sonnette d'alarme. C'est important de le dire et que le public se rende compte aussi des difficultés qui peuvent être les vôtres.
Oui, tout à fait. Bon, on aborde un sujet, c'est la santé. Hein. Bon, on sait très bien, nous les premiers, hein, on fait tout ce qu'il faut pour pour ne pas vendre de tabac aux mineurs, quand on les voit mineurs, parce que c'est difficile maintenant, on tire un peu trop sur le métier. Oui, c'est, on a l'impression qu'on n'est plus des gens honnêtes, et ce n'est pas le cas. Vraiment, on est là pour satisfaire le client, et puis la vie d'une commune, comme la vie d'une galerie. On est vraiment un commerce qui rassemble le monde. Oui.
Et avec une quantité de travail phénoménale avant même que le rideau ne s'ouvre chaque jour.
Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai le privilège d'ouvrir pas trop de bonheur, j'ouvre à 8h30 le matin, mais je suis là à 6h30, 7h moins le quart, pour mettre la presse en place, pour démarrer la Française des Jeux, démarrer les caisses, pour que quand la clientèle arrive, on soit opérationnel. C'est du travail avant l'heure, oui.
Et après l'heure aussi.
Et après l'heure aussi. Et bon, on va pas se plaindre. On l'a choisi, c'est un métier agréable, pour bien qu'il y ait quelques inconvénients.
Bon, ça dure depuis 92, donc a priori, on y trouve aussi un peu de plaisir.
Bah oui, absolument. C'est un métier qui m'aura satisfait pendant des années. Même si aujourd'hui, je trouve, comme je vous disais, qu'on tirait un peu trop sur l'ambulance, quoi. On a l'impression qu'on ne nous veut plus, alors que notre clientèle nous adore.
Voilà. Et nous, on vous veut aussi. Et on va passer la semaine avec vous pour voir concrètement tout ce que vous faites. Et ça commencera demain par le secteur emblématique, c'est la presse, que vous proposez juste derrière nous. On en parle ensemble demain. Et c'est notre deuxième rendez-vous de cette semaine à la découverte du métier de buraliste. Nous sommes installés dans la galerie commerciale Corniac à Limoges et nous sommes en compagnie d'Éric Larrault qui tient ce bureau de tabac depuis 2004 maintenant, même s'il est déjà dans la partie depuis 1992. On va détailler, Éric Larrault, jour après jour, jusqu'à la fin de la semaine, un petit peu tous les services que vous proposez. Et ça commence évidemment par la presse. Là, on est au milieu justement des journaux, des magazines. Si je vous demande combien de titres, vous-même, vous allez avoir du mal à me le dire.
Oui. Oui, on dira 80% de la presse qui existe en France. Oui.
Alors, presse, il y a les magazines, il y a les programmes télé, c'est quoi le pourcentage ?
Les télés, les journaux télé, oui, ça représente une grosse activité pour nous. Mais bon, on vend de plus en plus de presse bien spécifique, professionnelle, comme l'informatique, des revues à fort potentiel. Et maintenant, il faut avoir de tout dans son linéaire. Oui. Puis si on l'a pas, j'ai mon petit collaborateur David qui s'en occupe, qui commande et qui essaye de récupérer ces revues.
Voilà, qui est un petit peu tout. Alors justement, concrètement, comment ça se passe ? Comment on fait la sélection ? Parce qu'effectivement, on l'a dit, il y a peut-être 80% de ce qui existe que l'on peut retrouver ici, mais concrètement, comment on choisit ce que l'on propose et ce que l'on ne propose pas ?
Alors, la presse, c'est un métier un peu compliqué. D'abord, le diffuseur de presse ne commande rien. Tous les matins, quand on arrive, on a la découverte de ce qu'on nous livre. On vit au jour le jour. C'est de plus en plus compliqué parce que la société d'agence et de diffusion au Palais, avant il y avait beaucoup de monde, maintenant il n'y a plus personne. On n'a plus qu'un commercial pour tous les diffuseurs de presse de Haute-Vienne. Donc on a du mal à avoir ce qu'on veut.
C'est un peu la jungle.
C'est même plus que la jungle. Le matin, quand on arrive, on trouve des aberrations totales. On va avoir des revues où on peut en vendre une trentaine, on va en recevoir deux.
Ou le contraire.
Et l'inverse. Ou le contraire. On subit le système. Complètement. Même quand je disais que mon petit collaborateur essayait de récupérer des revues pour contenter un client, 90 fois sur 100, on les a pas.
Il essaye pourtant, malgré toute la bonne volonté, on ne fait pas tout ce qu'on veut.
Non, pas du tout. Malgré que, on les commande par informatique, on le fait devant le client est ravi, sauf qu'il est déçu qu'il ne reçoit pas.
Voilà. Quand il y a des nouveautés, par exemple, ça se passe comment ? Ça aussi, c'est, vous les découvrez en même temps que tout le monde, ou est-ce que il y a des commerciaux qui viennent vous démarcher pour vous présenter des nouveaux titres ?
Ah non, on découvre le matin. Le matin, on reçoit des bacs, et quand on ouvre le bac, on voit ce qu'il y a dedans.
Alors, quand on voit le nombre de titres qu'il y a autour de nous, on imagine la taille des bacs que vous recevez tous les matins. Comment ça se passe ? Le pire, c'est quoi ? C'est le lundi matin ?
Non, c'est pas le lundi matin, c'est presque tous les jours. Comme ce matin, j'avais 10 bacs, 10 bacs de presse, plus les quotidiens.
Ça fait pas mal de kilos, ça fait le sport le matin ?
Ça fait du sport le matin, ça nous met en forme pour la journée. Ouais.
Après, comment on gère ? Parce que alors, du coup, ça veut dire qu'il y a des titres qu'on n'a pas forcément dans le rayonnage, il va falloir leur faire une place. Si on vous livre 30 titres, comment on met tout ça dans les rayons ? On a l'impression que plus ça va, plus on resserre, c'est un exercice de haute voltige.
On jongle avec la réserve, hein. Et puis après, on essaye de mettre les bons titres en avant, mais c'est pas toujours évident.
Et comment on fait là pour s'y retrouver ? Parce que déjà, il faut arriver à rachalander le nouveau numéro qui va remplacer l'ancien. Il faut savoir où il se trouve. Quand on voit l'étendue de ce que vous proposez, c'est un exercice colossal. C'est un peu le facteur qui doit reconnaître toutes les boîtes aux lettres de l'immeuble, quoi.
Oui, c'est ça. Oui. Disons que il y a l'habitude. Et puis après, c'est classé par famille. Hein, enfants, femmes, médecine, refemmes, la cuisine, la couture, la maison.
J'ai l'impression que c'est beaucoup les femmes qui lisent les magazines, ou je rêve?
Oui, on a une bonne clientèle de femmes. Les femmes prennent beaucoup de revues. Oui.
Les femmes, les hommes, c'est le petit secteur sport qui marche le mieux?
Sport ou revues informatiques spécifiques, des revues à fort potentiel, oui.
Bon, après, je vois que là, il y a de quoi contenter aussi la jeune génération. C'est l'idée aussi de leur donner un maximum d'accès et les initier aussi à la lecture de magazines?
Ça, c'est bien, oui. Oui, c'est bien. Oui, c'est même, je trouve qu'on le fait pas assez, hein. À une période, il y a des écoles qui le faisaient, qui envoyaient des enfants visiter notre magasin, découvrir, passer une heure ou deux dans le rayon pour voir des revues. Ça se fait plus, c'est bien dommage.
Il y a donc les magazines, et puis il y a aussi la presse quotidienne. Donc là aussi, ça fonctionne comment? Donc là, les choses sont un peu plus contrôlées, un peu plus faciles à gérer?
Oui, la presse quotidienne, ils suivent beaucoup plus que les mensuels. C'est rare quand on manque d'un produit. Bon, c'est un peu plus technique, mais ils ont des bases de réglage qui informatiquement remontent tous les soirs. Et le lendemain, ils peuvent réajuster, ou le surlendemain, ils peuvent réajuster par rapport à nos besoins.
Voilà, si vous avez tout vendu, vous en restez quelques-uns.
Voilà.
Alors, justement, ce qui ne se vend pas, comment ça se passe à la fin de la journée, à la fin du mois? Comment on gère les invendus?
Tous les jours, on a des bordereaux de livraison et on a en contrepartie des bordereaux de retour. Et tous les matins, il faut rechercher les invendus. Le lendemain matin, ils repartent avec le livreur.
On vous dit, il faut l'enlever. C'est à vous de le rechercher.
Voilà, tout à fait.
Bon, on n'en refait pas 10 caisses comme le matin, j'espère. Pas loin.
Allez, 6, 7.
Bon, c'est déjà pas mal. On a réussi quand même à en écouler un petit peu. Et puis du coup, voilà, il y a cette mise en place. On en disait un mot hier, hein. C'est beaucoup de travail. Ça, c'est avant la levée du rideau. C'est ce qui vous occupe la plupart du temps entre l'arrivée au magasin et l'ouverture au public?
Oui, enfin, ça, c'est moi qui me l'impose. Je sais pas si mes collègues font comme moi, mais moi j'aime bien ouvrir le magasin et avoir fini la presse.
Ça permet de prendre du bon temps aussi avec les clients et de pouvoir papoter tranquillement.
Déjà, aussi. Le matin, c'est surtout le matin qu'on a une clientèle beaucoup plus fidèle avec le populaire, hein. Faut pas se leurrer. Avec ces gens-là, on peut passer un peu plus de temps et discuter. Et voilà.
Alors, on parlera en fin de semaine de l'évolution du métier, parce qu'évidemment, il y a ces magazines-là, papier sous nos yeux, hein, mais il y a l'évolution, le dématérialisé, donc on verra quel sera l'impact peut-être pour vous. Et puis là, autour de nous, il y a peut-être ce qui vous permet de vous différencier, justement, contrairement au dématérialisé, c'est ces petites collections, hein, avec les magazines, les livres, les DVD, les petits objets de collection. Ça, c'est aussi ce qui peut encore permettre de faire la différence en tant que buraliste.
Oui, c'est indéniable. C'est ce qui fait vendre certains produits. Dommage que certains éditeurs ne jouent pas le jeu, parce que on vend le numéro 1, hein, qui est à 1,99€, et après, ils font des prix tellement intéressants pour l'abonnement que les gens se passent de nous, quoi. C'est bien dommage.
Mais c'est un moyen, peut-être, encore d'amener du monde dans le magasin et peut-être de découvrir le reste.
Au moins pour le numéro 1.
C'est déjà ça. Espérons beaucoup de numéro 1. Et puis, puisqu'on parle de la presse quotidienne aussi, on est le premier lecteur. On a le temps, le matin, avant l'ouverture du rideau, de jeter un petit coup d'œil sur... On peut parler du populaire du centre.
Oui, je lis le populaire. Je prends 10 minutes pour regarder les gros titres le matin avant l'ouverture. Oui.
Pour en parler aussi avec les clients, parce que c'est le moment d'échanger aussi sur le sujet du moment.
Tout à fait. Surtout que bon, on est quand même de la région, donc on aime bien voir ce qui se passe.
Soyons un peu chauvin. Par contre, on n'a pas le temps de lire toutes les revues qu'on met en rayon, donc on n'est pas incollable non plus sur tous les sujets du moment. Hein.
Ah non. Il y a beaucoup de revues que je laisse aux clients.
Ça, c'est le client qui viendra vous donner des infos, éventuellement chacun sa spécialité.
Oui, c'est là, on me dit, t'as vu? Non, j'ai pas vu, je vais regarder.
Et c'est notre troisième rendez-vous installé au cœur de ce centre commercial Cornillac à Limoges, à la découverte d'une profession, celle de buraliste, que nous fait découvrir Éric Larreau depuis le début de cette semaine et jusqu'à vendredi. Éric Larreau qui tient ce bureau de tabac ici à Cornillac depuis 2004 et qui a commencé l'aventure en tant que buraliste depuis 1992. On a parlé du secteur presse, évidemment un gros travail au quotidien ici, mais il y a un autre pôle important qui génère sans doute beaucoup de flux, c'est le secteur du tabac. Alors d'abord, de façon très juridique, c'est encadré, c'est comme un peu la vente de débits de boissons. Je suppose qu'on a des autorisations pour vendre du tabac dans un bureau de tabac.
Ah oui, tout à fait, on est sous la tutelle des douanes. Hein. On a des prix qui sont encadrés, on a des ventes qui sont encadrées, on a des réglementations strictes. On peut pas faire de publicité extérieure. On est dans l'obligation de suivre notre ministère de tutelle, les douanes.
Et alors, on a dit que ça a généré beaucoup de passages pour la presse. Le tabac, c'est au-dessus encore?
Ah oui, le tabac, c'est un flux perpétuel, parce que bon, c'est devant les caisses, justement. C'est un flux de clientèle supérieur à la presse, oui.
Alors, avec un nombre de références tabac, des chiffres un peu qui donnent un peu le vertige.
Oui, oui. Enfin, bon, ça a bien diminué avec le paquet générique, hein, parce qu'il y a beaucoup de produits qui ont disparu. Hein. Tout ce qui est produit habillé, tout ce qui est produit un peu spécial, ça a disparu. Donc, ça a descendu quand même pas mal. Mais je suis sûr qu'il y a entre 300 et 500 références. Ouais.
Évidemment, il y a le paquet neutre, hein, qui a été la révolution. Quand on regarde, effectivement, derrière les caisses, ces paquets qui se ressemblent tous, pour vous, ça a changé concrètement quelque chose en termes de temps de travail, ça a vraiment compliqué la donne?
Ah oui, tout à fait. Même mes collaborateurs ou collaboratrices, on s'en malade. Quand on reçoit la livraison de tabac, c'est quelque chose d'infernal.
On pose une RTT ce jour-là.
Parce qu'on fait un tour de rôle, celles qui ne travaillent pas sont bien contentes.
Ouais.
Non, c'est très très pénible. C'est source d'erreurs. Pour tout vous dire, on mettait 2-3 heures pour faire une livraison de tabac. Maintenant, on met un jour. Et on a toujours la même commission.
Et puis l'idée, c'était de faire ralentir les ventes. Est-ce que ça a eu un vrai impact? Ou à part vous compliquer la vie, ça n'a pas changé grand-chose?
C'est trop tôt pour en parler. Ça fait que depuis le 1er janvier, je serais presque persuadé que ça va plus ennuyer le buraliste que le client.
Surtout qu'aujourd'hui, on peut trouver des petits caches pour mettre le paquet à l'intérieur.
Ah oui, on peut trouver un cache et on peut trouver des paquets qui ont encore les images qu'on avait avant, parce qu'il y a de la contrebande, il y a des paquets qui viennent des pays européens à côté de chez nous et qui n'ont pas les mêmes contraintes que nous. Je pense qu'on ferait bien de faire confiance aux buralistes pour freiner la consommation de tabac. Moi-même, j'ai arrêté, hein, et pourtant j'ai mon rayon tabac derrière, et pourtant j'étais un gros fumeur, et quand on a la volonté, on peut arrêter. Je pense que c'est pas les lois qui vont faire arrêter les gens de fumer.
Je ne suis pas sûr que l'État ait très envie non plus que les gens s'arrêtent complètement de fumer.
Ils sont bien contents de toucher les milliards qui tombent. Hein.
Grâce à vous, parce que vous travaillez bien pour eux tranquillement et pour pas cher sans doute.
Je crois qu'ils en ont besoin.
Alors concrètement, comment ça se passe au niveau du tabac? C'est des approvisionnements réguliers, quotidiens également?
Tous les 15 jours. C'est des livraisons tous les 15 jours.
Hein. Donc on imagine les quantités que vous êtes obligé de commander, si c'est que tous les 15 jours, parce que ça file, je suppose, en magasin.
Oui, oui. Alors c'est tous les 15 jours. On fait une commande à la SRD de Toulouse et on a un centre de dépannage à Limoges. Pour si des fois on manque de produits, on peut aller chercher à Limoges du dépannage dans la zone nord.
Avec donc la réalimentation aussi dans le magasin qui se fait au fil de la journée, là évidemment, oui. Il faut toujours qu'il y ait tout ce qu'il faut derrière les caisses.
Tout à fait. Les filles sont en permanence à l'affût pour faire le plein, oui. C'est difficile maintenant parce qu'il faut savoir ce qui manque.
C'est ça. Il manque un paquet noir, c'est évidemment plus compliqué. Ça fait partie des produits sensibles aussi, le tabac. Hein. On sait que les buralistes sont souvent victimes malheureusement de braquages, sans doute. Pour ce type de produit, par exemple, vous êtes dans une zone commerciale, ce qui peut-être change un petit peu la donne, vous limite entre guillemets ce risque-là, mais au quotidien, voilà, on sait que ça reste un produit sensible.
Ah oui, tout à fait. Le risque zéro n'existe pas, hein, en galerie, en campagne, en ville. C'est un produit qui est très recherché, le tabac, on le sait. Hein. Il y a eu beaucoup de problèmes passé une époque. Bon, maintenant, c'est plus difficile parce que tous les gens sont mis sous alarme, sont équipés. Mais j'espère bien que ça va se calmer pour mes collègues et puis pour moi aussi, mais qu'on ne soit pas ennuyé avec ça.
Il y a justement, entre collègues, il y a une vraie entraide dans cet univers des buralistes. On le sait, il y a ces difficultés que vous connaissez tous, hein, sans exception. Ça veut dire que c'est une profession dans laquelle on se serre les coudes peut-être plus qu'ailleurs?
Je ne sais pas, plus qu'ailleurs, je ne juge pas, mais... J'ai toujours senti de la solidarité dans ce métier, oui. Enfin, moi, je fais partie du bureau de la Confédération des débitants de tabac, enfin, à Limoges, et notre président, c'est Didier Pichon, la Batide. Et on est en réunion régulièrement pour faire des propositions, pour discuter du métier, faire évoluer le métier, oui. Et rester cohérent dans le métier de buraliste.
Et est-ce qu'on sait si notre situation en Limousin, par exemple, sur des secteurs un peu plus ruraux, c'est très différent de grandes villes, par exemple, la place d'un buraliste est différente?
Ah oui, tout à fait, oui, oui, oui. Bon, on a rencontré des habitants de tabac dans un tout petit patelin. C'est pas le même métier qu'en ville. C'est beaucoup plus, c'est plus convivial. Puis ils ont l'épicerie, ils sont beaucoup plus diversifiés. Enfin, c'est un métier de buraliste, hein, mais ils le font autrement. Ouais.
Et c'est forcément un métier de passion, quoi qu'il arrive. Quand on voit le temps à passer, faut avoir ça dans le sang, dans les tripes.
Ah ben celui qui est pas passionné, il reste 3 ans parce que c'est l'obligation des douanes et après on le voit plus. Oui.
Notre quatrième rendez-vous de cette semaine, destination consacrée à cette profession de buraliste que nous découvrons grâce à Éric Larrot, installé depuis 2004 au centre commercial Corniac à Limoges, qu'on vous invite à venir saluer lorsque vous serez de passage et découvrir l'étendue des services et de la marchandise proposée ici. On a déjà parlé de la presse mardi. Hier, on évoquait ensemble le secteur du tabac, hein, qui sont évidemment des pôles très importants et qui génèrent aussi beaucoup de travail. L'un des points forts également d'un bureau de tabac, c'est le fonctionnement des jeux avec la Française des Jeux. Donc là, comment ça fonctionne? C'est un partenariat?
Ah oui, tout à fait. On est dépositaire de la FDJ. On commande les grattages, hein, je parle de la loterie. On commande une fois par semaine. On est livré par un transporteur.
C'est vous qui choisissez aussi les références, les quantités?
On est appelé par l'agence de La Rochelle qui nous fournit en jeu. Et avec une personne qui est au bout du fil, on fait le point. On dit bon, j'en prends tant. On fait notre commande, on s'arrange. C'est assez souple là-dessus pour avec la Française des Jeux. Le loto, c'est simple, hein, c'est eux qui décident de l'auto sportif ou le loto ou l'euro million. On n'est que des prestataires de services.
Ils fournissent aussi le matériel parce qu'effectivement, il y a des machines, il y a de l'électronique, il y a des meubles également. On vous fournit pas mal de choses voilà, en tant que prestataire.
Ah oui, ben ça, ils nous le fournissent en nous le faisant payer. On vous l'impose, mais on paye un loyer.
C'est un peu comme sur le tabac, on gagne finalement pas grand-chose par rapport au travail qui est passé sur ces secteurs-là encore.
Ah oui, et puis c'est beaucoup plus pénible de faire la Française des Jeux. Le tabac, on vend, on suit la réglementation. La Française des Jeux, ils veulent avoir une bonne image en passant par nous, et ils nous font fliquer par des inspecteurs qui viennent nous tester, notamment hier au soir, donner un ticket perdant. Ma collaboratrice a oublié de lui redonner, donc je reçois une lettre de remontrance.
Il faut rendre les tickets perdants aux clients.
Voilà. Mais, voilà, on ne sait pas pourquoi. C'est vraiment pour payer ces gens-là qui viennent nous surveiller. On a une surprime de 0,02%. Et là, comme elle a oublié, ils vont me la faire sauter, cette prime. C'est donc je vais être pénalisé financièrement. Je vais lui retenir sur son salaire.
Bon, à 0,02%, elle devrait s'en sortir quand même. En même temps, en plus, il y a ce système de on vient acheter un jeu de grattage chez vous, on le gratte, mais on peut aller se le faire rembourser ailleurs. Donc ça aussi, c'est une gestion financière particulière.
Ah ben non, notre obligation, c'est de vendre des tickets, mais de rembourser. C'est logique, le client, il faut le satisfaire.
Mais s'il a acheté le billet ailleurs, l'argent n'est pas rentré dans votre caisse et finalement il va falloir en sortir quand même, donc ça demande aussi un peu d'organisation.
Ah oui, bon, alors après quand c'est des grosses sommes, c'est des virements, on fait des virements aux clients. Maintenant ça s'est bien assoupli parce qu'avant il fallait téléphoner à la Française des Jeux qui venait, un courtier venait avec un chèque. Maintenant on peut faire des virements automatiques sur le compte du client par le biais de l'appareil de la Française des Jeux. Maintenant on peut satisfaire facilement tous les clients. À ce niveau-là.
Pour l'anecdote, la plus grosse somme un peu marquante, parce que ça arrive chez tous les buralistes, on l'attend un peu d'ailleurs, c'est plutôt bien de pouvoir l'accrocher sur la vitrine.
On aimerait bien, mais jusqu'à présent, bon, j'ai souvenir de 10 000 euros, on a eu 18 000 euros aussi, mais bon, après, j'ai pas eu les 500 000 euros ou le jackpot. Bon,
c'est peut-être vous de l'autre côté du poste, donc on vous attend ici, donc n'hésitez pas. Ce qui marche le mieux, c'est quoi? C'est les grattages ou c'est plutôt les jeux type loto Euromillion?
Les grattages, ça marche bien, oui. Les gens aiment bien, oui.
On veut l'instantané?
Voilà, c'est ça. On veut être riche tout de suite.
Et puis il y a les gros joueurs, les parieurs, comme on dit, loto, PMU, Euromillion. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui génère un trafic assez régulier.
Ah oui. Les gens aiment bien le loto, hein. Faut pas se cacher, c'est pareil, hein. Quand on entend parler de l'addiction des jeux, encore une fois, le gouvernement est bien content, hein.
parce qu'il touche un peu aussi quand même là-dessus. Hein.
Un peu beaucoup, oui. Un peu beaucoup.
L'idée, on parlait de la relation avec le client. Vous vendez du rêve aussi à travers la Française des Jeux, parce que quand on vient gratter, cocher une grille, dans l'idée, évidemment, on espère décrocher le pactole, donc voilà, il y a une relation particulière, c'est un moment, un acte commerçant particulier.
Oui, alors je ne le dirais pas tout à fait comme ça, je dirais que la Française des Jeux vend du rêve et nous on vend des tickets et le sourire avec le ticket.
Cacher toute la complexité peut-être de la manœuvre, donc ça c'est pour la Française des Jeux, et puis il y a d'autres services, les timbres par exemple que vous proposez, il y a les cartes téléphoniques prépayées, tout un tas de services, c'est indispensable aujourd'hui dans ce métier-là, il faut proposer une multitude de services pour continuer d'exister.
Ah oui, c'est une obligation maintenant. Le métier est tellement évolué, On est obligé de faire toutes ces choses-là. La téléphonie, je connaissais pas ça quand j'ai démarré en 92. Maintenant, bon, voilà, faut vivre avec son temps. On a, si on peut dire, la chance, parce que encore une fois, les caisses, on les paye, hein, on achète ou on les loue. Mais on a nos fournisseurs informatiques qui sont au point là-dessus quand même, qui nous fournissent tout ce qui est téléphonie dématérialisée.
Ça, c'est des choses qui sont amenées à évoluer. On proposera encore plus de services.
Ah oui, il faut espérer que ça évolue. Ça serait bien qu'on puisse faire les cartes grises, qu'on puisse faire les cartes, je sais pas moi, d'identité, par du matériel informatique qui soit chez nous. Ça serait bien. Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui seraient faciles à faire, hein, qu'on serait capable d'adapter à nos commerces. Ouais.
Et c'est déjà notre tout dernier rendez-vous de cette semaine que nous avons passé avec Éric Larreau, qui est buraliste dans ce centre commercial Cornillac à Limoges. Buraliste installé ici depuis 2004, mais déjà dans la profession depuis 1994 avec le rachat du premier magasin et même 2 ans plus tôt au sein du magasin familial à Ille, donc depuis 1992. On va terminer dans un instant en parlant d'avenir, de l'évolution de ce métier qui a sans doute bien changé depuis que vous l'avez commencé. Mais d'abord, après tous les services qu'on a présentés, la presse, tabac, Française des Jeux, etc., il y a d'autres à côté que vous avez souhaité proposer ici pour enrichir encore l'offre, papeterie, quelques petits objets de déco, des petits gadgets en vente.
Ah oui, tout à fait. Bon, la papeterie était un gros pôle en 2004, quand j'ai repris le magasin. C'est plus difficile maintenant parce que la grande distribution s'est penchée sur la papeterie. Et puis on s'aperçoit que à prix égal, les gens ont le réflexe grande surface. Hein, alors on en vend toujours un peu, on a toujours un peu de papeterie parce qu'on a nos clients fidèles, on fait encore des listes scolaires, mais c'est plus difficile que ça a été.
Alors, vous avez la chance effectivement que, en l'occurrence, Hyper-U, qui est la grande surface présente ici, ne fait pas de magazine, mais par exemple un centre Leclerc à Limoges fait aussi la presse magazine. Ça veut dire que c'est un univers qui peut aussi rentrer dans la grande distribution aujourd'hui. Donc c'est des choses qui évoluent aussi dans ce sens-là.
Oui, tout à fait. Alors, je ne vous cache pas que la presse en grande surface, c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup parce que j'ai été président des diffuseurs de presse de la Haute-Vienne et je me suis battu pour pas que la grande distribution et la presse. J'ai perdu, ils ont gagné. Parce qu'on s'attaque à des gros morceaux. Ceci étant dit, on s'aperçoit quand même que pour la presse, depuis qu'ils l'ont mis en grande surface, elle n'arrête pas de baisser.
Les gens ont envie de venir dans des petits commerces spécifiques.
Je pense, et puis c'est pas eux qui, c'est pas des professionnels de la vente de la presse. Ils sont pas là pour aider, ils sont pas là pour ranger. Ils aiment la grosse cavalerie, et puis le reste, ils s'en foutent, quoi.
Et puis il faut quand même être spécialisé. Quand on a parlé en début de semaine du nombre de magazines, du nombre de références, et pour s'y retrouver, voilà, faut quelqu'un qui soit dédié à cet univers-là en particulier.
Oui, et puis comme je vous disais, le métier a changé. Moi, en 94, la presse se vendait. Maintenant, il faut qu'on la vende. Il faut qu'on la vende avec les conseils, il faut qu'on soit dans le rayon.
Ouais. On va parler de l'évolution de ce métier dans une seconde. Et puis, donc, on l'a dit, il y a plein d'objets également. Comment on fait la sélection de ce que vous proposez ici?
Donc, le cadeau, j'ai mon épouse qui s'en occupe avec Elodie et qui font une sélection avec des fournisseurs.
C'est un peu l'achat compulsif à la limite, c'est le petit achat coup de cœur, quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, ouais.
Après, c'est sur ce type de produit aussi qu'on va peut-être pouvoir faire des marges un peu plus importantes, même si on n'est pas sur des choses énormes parce que ce sont des petits articles à petit prix, mais voilà, des choses un peu plus, des marges un peu plus confortables que sur du tabac, sur des jeux de grattage.
Mais là, ça ne nous est pas imposé.
On a encore un petit peu de liberté quand même sur ce côté-là,
voilà,
du coup.
Voilà. C'est pour ça qu'il faut les avoir. Il faut avoir ces produits.
Sans ça, un bureau de tabac ne peut pas survivre.
Je pense que c'est indispensable. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais il faut se diversifier, c'est certain. C'est certain. Il faut faire attention parce que se diversifier, ça veut dire du stock, ça veut dire de la trésorerie et ça devient compliqué au bout d'un moment. De pouvoir assumer tout ça. Il faut faire attention, mais il faut se diversifier, oui.
C'est bien quand on a des années d'expérience, quand on est jeune, qu'on s'installe dans cet univers aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué à appréhender, c'est bien d'avoir du vécu, de savoir appréhender les choses peut-être avec un peu de recul.
C'est surtout bien de participer aux réunions des instances départementales, parce qu'on discute de tout ça justement. On parle de ce qui marche bien, des fournisseurs avec qui il faut faire attention, parce que il n'y a pas que des gens honnêtes.
Hein. Ce n'est pas le monde des bisounours.
Non, pas du tout. Non. Ils sont au courant des situations et quand quelqu'un est vulnérable, ils ont vite fait de profiter de la situation.
Donc c'est important de marcher presque main dans la main entre confrères.
C'est indispensable. C'est un métier soudé parce que c'est un métier où bon, on a les mêmes tarifs, on a les mêmes produits. En 90% du magasin. Donc, on n'a pas à se tirer la bourre. Hein. C'est Et c'est le lieu, c'est la convivialité, c'est voilà, c'est on peut tirer notre épingle du jeu là-dessus, mais pas en rivalisant avec notre collègue, non.
C'est le personnel derrière le comptoir qui fera la différence, l'échange, le feeling, voilà, qui fait que on aime bien venir ici, qu'on aime bien y revenir aussi. Alors pour finir, on parle d'avenir avec l'évolution de ce marché. Par exemple, si on pense à la presse, qui était le cœur de vos activités, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies, il y a des magazines dématérialisés. On peut s'abonner effectivement en physique, mais aussi uniquement avoir son magazine sur sa tablette. Ça a changé beaucoup de choses pour vous au niveau des ventes. Vous l'avez ressenti ?
Ah oui, c'est depuis 2004, je dirais que c'est 50% de mon chiffre d'affaires qui est parti. Presse.
Et là, il n'y a rien à y faire, malheureusement.
C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est l'éditeur qui tient la maison, qui gère comme il veut. Et s'il veut me faire tomber en rupture sur un produit pour que les gens s'abonnent ou aillent sur une tablette, hein, ils le font comme ils veulent. Ils ont toute la latitude pour gérer leurs produits et nous on peut rien faire. En plus on est parce que la presse c'est une loi qui s'appelle du croire. Hein. La presse nous appartient pas. Elle appartient à l'éditeur. Mais si on nous la vole dans notre rayon, le vol est pour nous. Elle nous appartient pas, mais on est responsable Alors, c'est compliqué.
Et puis alors, il y a quand même du bon dans l'évolution technologique, parce qu'effectivement, ça vous a emporté une partie des ventes et du chiffre d'affaires. Mais en revanche, de façon quotidienne pour le travail, l'évolution technologique, ça a quand même facilité un petit peu les choses, parce qu'on l'a dit, c'est une quantité de travail colossale chaque matin. Il y a quand même des choses qui ont évolué positivement depuis que vous avez commencé.
Ah oui, tout à fait. J'ai travaillé avec le papier et le crayon.
On cochait, on pointait comme ça manuellement.
Voilà. Bon, on avait moins, il y en avait moins quand même, mais il fallait le faire quand même. Maintenant, on peut avoir sur le matériel informatique un scan. On travaille avec pour vérifier ses livraisons, pour vérifier ses invendus. Ça nous donne les premières pages. Ça nous aide pour trouver les retours. C'est quand même. Ça a bien évolué aussi, ça, oui.
Donc c'est un métier qui est amené encore à évoluer, donc sans doute avec des choses qui seront peut-être de plus en plus compliquées à l'avenir, mais la force d'un univers comme celui du buraliste, c'est quoi ? Ça restera cette relation, ce commerce de proximité qui a quand même une place particulière dans le cœur des Français et des Limousins ?
Ah oui, ça j'en suis persuadé. Je suis persuadé que tout va rentrer dans l'ordre. À mon avis, c'est cyclique, comme pour beaucoup de choses. La presse, ça va repartir à un moment donné parce que les gens vont revenir sur du traditionnel, sur du papier. Le tabac, je peux pas savoir, je dis c'était trop tôt par rapport au paquet générique, mais je suis presque persuadé que Marisol Touraine, comme on dit chez nous, elle s'est pissée dans un violon, hein, ce qu'elle a fait. Puis après, je vous dis, le commerce de proximité, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup parce que nos collaboratrices y croient aussi. C'est des jeunes, hein. C'est toujours sympa d'avoir la vie des jeunes. Et
c'est aussi la relève, mine de rien.
C'est ça. Puis c'est des gens qui nous boostent, hein, parce que maintenant, moi, je suis un peu plus sur la fin, quoi. Mais ça, ils nous boostent. Hein. C'est pour ça que je suis persuadé que le commerce de proximité a encore de l'avenir, un bel avenir.
Donc depuis 92, la passion reste chevillée au corps et on est encore parti pour quelques belles années.
Je ne peux pas dire ça, mais j'espère qu'il y en a qui passeront de belles années. Oui.
Bon, après, on reviendra comme ça pour le plaisir, feuilleter les magazines, sans avoir eu tout le boulot le matin avant l'ouverture de la grille.
Voilà, je viendrai justement à l'ouverture pour voir si la presse a bien été mise en place.
Et boire le café.
Voilà, tout à fait.